Le journal de 18h. Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire, ce soir, un meurtre qui plonge la Grande-Bretagne dans l'effroi et qui ravive de douloureux souvenirs. Un député britannique tué à coups de couteau dans une église où il recevait ses administrés. L'auteur a été arrêté. On ne connaît pas les raisons de son geste. Nous serons sur place dans un instant. Des dizaines de milliers d'élèves et d'enseignants qui rendent hommage à Samuel Paty, assassiné il y a près d'un an. Nous serons dans un lycée de l'Oise. À suivre aussi l'Inde qui rouvre ses portes aux touristes à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'enfouissement des déchets sur le site de la Stocamine en Alsace, bloqué par la justice, des produits défectueux en pagaille sur les sites de marché en ligne, et puis les choix culture de la semaine, le dernier roman d'Elsa Fottorino sur la question du viol.
France Inter. La Grande-Bretagne sous le choc après la mort d'un député cet après-midi.
La Grande-Bretagne déjà marquée par l'assassinat en pleine rue il y a 5 ans d'une députée anti-Brexit. Là, il s'agit d'un député conservateur, David Ames, 69 ans, poignardé à plusieurs reprises alors qu'il tenait une permanence parlementaire dans sa circonscription dans l'est du pays. Bonsoir Laura Calmus.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Londres. Un homme a donc été arrêté, mais on ne sait rien de ses motivations.
Exactement. Ce que l'on sait, c'est que le meurtre a eu lieu aux alentours de midi à l'est de Londres, dans une église. David Ames, député conservateur, y tenait une permanence parlementaire, vous l'avez dit, et le député avait invité toute personne de sa circonscription à venir lui poser des questions. Un événement public, donc, annoncé sur son site internet. En plein milieu de sa permanence, un homme est entré dans l'église. Il a poignardé le député à plusieurs reprises. David Ames, âgé de 69 ans, député depuis 1983, a succombé à ses blessures. Pour l'instant, les motivations de l'assaillant âgé de 25 ans ne sont pas encore connues. L'homme a été arrêté et le couteau retrouvé sur place. Nombreuses réactions de députés britanniques qui ont qualifié la nouvelle de profondément choquante. Boris Johnson devrait s'exprimer dans les prochaines minutes. Et bien évidemment, cette histoire rappelle le meurtre de Joe Cox en 2016, tué en pleine rue quelques jours avant le vote du Brexit.
Laura Calmus en direct de Londres. Dans l'actualité étrangère encore, ses funérailles sous haute tension au Liban où pointe à nouveau le spectre de la guerre civile. Le Hezbollah enterrait aujourd'hui ses manifestants tués hier lors d'une manifestation qui a dégénéré contre l'enquête menée autour de l'explosion du port de Beyrouth. La tension reste vive sur place, mais pas de nouveaux dérapages à noter ce soir. En Allemagne, les contours du prochain gouvernement se dessinent. Les sociaux-démocrates, les libéraux, les verts ont signé un premier accord préliminaire. Pas de hausse d'impôts, respect des règles d'endettement, sortie avancée du charbon. Le tueur à l'arc en Norvège, responsable de la mort de 5 personne il y a 2 jours, relève d'abord de la maladie mentale. Thèse défendue pour le moment par la police, qui n'exclut pas toutefois d'autres hypothèses. Et puis les talibans défiés dans leur propre fief. Un nouvel attentat suicide dans une mosquée chiite, cette fois-ci à Kandahar, berceau des talibans, dans le sud de l'Afghanistan. Au moins 41 morts lors de la grande prière du vendredi.
Ne pas céder à la peur que le terrorisme veut créer.
C'est avec ces mots que Jean-Michel Blanquer a célébré la mémoire de Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020. Le ministre de l'Éducation nationale qui s'est rendu dans un lycée parisien pour participer à cette journée d'hommage dans tous les établissements scolaires. Minute de silence, débat en classe, projection de documentaires. Les enseignants et les élèves avaient le choix. Bonsoir Sonia Princet.
Bonsoir.
Vous êtes rendue dans le lycée professionnel Les Jacobins à Beauvais dans l'Oise.
Oui, des roses de toutes les couleurs ont été déposées au pied d'un arbre planté en hommage à Samuel Paty. Dans le jardin du lycée, des élèves et des professeurs se sont rassemblés autour du proviseur Xavier Mouchard.
Comme on s'y est engagé l'an dernier, chaque année, cette commémoration existe, existera. Alors les roses resteront, perdront leur couleur, mais alimenteront l'arbre aussi. J'invite chacune et chacun à respecter une minute de silence.
Dans la matinée, les enseignants ont parlé des valeurs de la République, de la laïcité avec leur classe, comme le raconte Rémi Cronier, professeur de mathématiques.
On avait des documents, donc des ateliers qui avaient été réalisés par les collègues de lettres-histoire, donc qui ont permis aussi de sensibiliser aussi les autres collègues, de montrer qu'en maths, en sciences, dans les autres matières, la liberté d'expression, la laïcité, c'est important et c'est les valeurs qu'on doit transmettre, quelle que soit la matière.
Mais certains enseignants ne se sentent pas toujours suffisamment prêts ou pas suffisamment formés pour aborder ces questions, selon Lana et Mathilde en classe de première.
Vu qu'on est, d'après la prof, un peu enfantin, elle n'a pas voulu plus aborder le sujet. Elle a dit qu'on allait faire la minute de silence, mais qu'on n'était pas assez mature et continuerait pas sur ce sujet-là.
On aurait pu quand même en parler, quoi. Enfin, c'est pas rien, quoi. C'est quand même un prof qui est mort. Ça aurait pu arriver à nos profs à nous.
Les professeurs ont prévu de retravailler sur ces sujets toute la semaine prochaine dans ce lycée, une fois que l'émotion sera un peu passée.
Sonia Princesse, spécialiste éducation à France Inter, merci. Autre hommage, l'hommage national à Hubert Germain dans la cour des Invalides aujourd'hui, dernier compagnon de la Libération. Mort cette semaine à l'âge de 101 ans, une vie qualifiée d'anthologie d'engagement et de courage par le chef de l'État. On l'entendra dans le journal de 19h de Frédéric Barrère, le chef de l'État qui commémorera demain un autre moment tragique de l'histoire de France, les 60 ans de la répression sanglante de la manifestation des Algériens de France le 17 octobre 1961. C'est un moment attendu depuis un an et demi par des millions de personnes dans le monde. La réouverture des frontières américaines, la fin du travel ban, de l'interdiction de voyager qui touchait des couples, des familles entières depuis le début de la pandémie de Covid. Et cette réouverture a désormais une date, ce sera le 8 novembre prochain. Dans un peu plus de 3 semaines, seules les personnes vaccinées pourront pénétrer sur le territoire américain. Il est un autre pays qui rouvre ses portes aux touristes dès aujourd'hui, l'Inde. Ce sont d'abord les groupes et charters qui pourront entrer et ensuite les autres voyageurs. C'est le reportage de Sébastien Farsi, notre envoyé spécial à Goa.
Le village balnéaire d'Arambol, au nord de Goa, est surnommé la Petite Russie. Mais depuis 18 mois et la suspension des visas touristiques, quasiment aucun russe en vue et sa belle plage de sable fin est presque déserte. Rohit Nageshkar possède 2 petits hôtels à côté de la plage.
Pendant la saison, les touristes étrangers représentent 70% de notre clientèle, des Russes ainsi que des Israéliens ou des Français. Sans eux, ces derniers mois, nous n'avions que 5 à 10% d'occupation.
Les cas rapportés de Covid-19 sont au plus bas en Inde depuis 7 mois. Les autorités ouvrent donc dès aujourd'hui les portes aux touristes qui arrivent par charter. Les autres, eux, doivent encore attendre un mois. Une reprise progressive et avec des contrôles sanitaires renforcés, comme le souligne Rohit Nageshkar.
Le gouvernement n'autorise les entrées à Goa que si vous avez un test négatif ou si vous êtes vacciné. Chez nous, notre personnel est vacciné et nous laissons toujours un espace de 24 heures entre 2 réservations pour désinfecter les chambres.
En Inde, la moitié de la population a reçu 1 dose de vaccin contre le Covid-19, un taux qui monte à 80% à Goa. À Goa, Sébastien Farsi, RFI pour France Inter.
Et au chapitre sanitaire, pas de vaccin Moderna pour le moment. Pour la 3e dose de rappel, c'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé en France. Le sérum a été suspendu dans les pays scandinaves, notamment suite à des risques de myocardite. C'est un nouveau rebondissement dans la déjà très longue histoire du site d'enfouissement de la Stocamine en Alsace. Site d'enfouissement de produits toxiques non radioactifs. Après des années d'hésitation, on se souvient que le gouvernement, la ministre de la Transition énergétique elle-même, avait fini par trancher pour un confinement définitif, une durée illimitée de 42 000 tonnes de déchets d'amiante, d'arsenic ou de mercure. Les travaux venaient de commencer. Colère à l'époque des autorités qui craignaient que la nappe phréatique ne soit contaminée, qui avait saisi la justice. Eh bien, la cour d'appel de Nancy vient de rendre son jugement. Annulation de l'arrêté permettant l'enfouissement. Les explications de Julien Penaud de France Bleu Alsace.
La préfecture du Haut-Rhin doit revoir sa copie, car juridiquement, l'annulation de son arrêté signifie qu'il n'existe tout simplement plus. Première conséquence, les 2 centrales à béton qui s'apprêtaient à enfouir le site de Stocamine sont mises à l'arrêt. Ensuite, il faut donc réécrire un nouvel arrêté en prenant compte la décision de la Cour administrative d'appel de Nancy. Cela passe par garantir financièrement l'enfouissement sur le long terme et anticiper l'impact de bruit des travaux. Mais la préfecture devra également réaliser un nouveau bilan écologique, une nouvelle enquête ainsi qu'une étude d'impact. Des procédures qui prendront des mois et pendant lesquelles associations et élus locaux mettront en avant leurs arguments. 2 scénarios se présenteront alors pour l'État. Soit un nouvel arrêté est rédigé pour réautoriser l'enfouissement définitif des déchets, ce qui à l'approche de la présidentielle peut devenir une décision politique de plus en plus sensible. Soit le nouvel arrêté ouvre la porte à un déstockage, auquel cas il faudra encore déterminer quels déchets seront concernés et quel coût cela représentera.
Julien Penaud de France Bleu, Alsace. Là, c'est l'histoire d'un fleuron de l'industrie du papier en France. La papeterie de la chapelle d'Arblay, près de Rouen, fermée depuis plus d'un an, et que Veolia voulait racheter pour relancer le site et en faire un champion du recyclage. L'actuel propriétaire n'a finalement pas retenu sa proposition. Il a revendu à un autre groupe français, Samfi Paprec. Les syndicats craignent un démantèlement de l'usine. La métropole de Rouen va donc préempter le site soutenu par Bercy qui dit regretter cette vente.
Sébastien, il ne fait pas toujours bon faire ses achats sur des places de marché en ligne.
Oui, ces fameux marketplaces, ces grandes plateformes en ligne comme Cdiscount, Rue du Commerce, eBay ou la Fnac, ils mettent à disposition leur site pour que des commerçants qui n'ont pas leur puissance de frappe, leur notoriété, puissent y vendre aussi leurs produits. Sauf que la direction des fraudes a mis son nez dans ces produits, justement. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Et 60% d'entre eux montrent des sacrées anomalies.
Oui, des détecteurs de fumée qui ne détectent rien, c'est-à-dire que vous allumez un feu à côté, ça ne sonne pas, jusqu'aux adaptateurs électriques qui provoquent des décharges, en passant par les jouets classés dangereux pour risque de suffocation ou de strangulation à cause de déguisements ou de peluches. C'est un vrai petit musée des horreurs de la consommation en ligne que décrit l'enquête de la répression des fraudes. Certains produits comme ceux dont on vient de parler sont purement et simplement dangereux, d'autres sont épinglés pour manque d'informations, moins graves mais tout de même problématiques quand il s'agit par exemple de dispositifs de santé comme des tests de grossesse. Au total, 60% de produits non conformes, c'est plus que les années précédentes. La répression des fraudes souligne qu'une part non négligeable des produits testés vient d'Asie et les plateformes de vente en ligne ont beau être bien connues des consommateurs, les vendeurs qui y écoulent leurs produits, eux, le sont beaucoup moins. La répression des fraudes appelle les places de marché à respecter leurs engagements pris devant la Commission européenne pour plus de sécurité et de réactivité par rapport au rappel de produits dangereux.
Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter.
On termine avec le conseil de lecture de cette fin de semaine.
Le choix du service culture, c'est aujourd'hui le très beau 4e roman d'Elsa Fottorino, roman écrit à la première personne du singulier. Il s'intitule « Parle tout bas ». Un jour de 2005, alors qu'elle fait du vélo dans la forêt près de la maison de ses parents, une jeune fille de 19 ans est victime d'un viol. Une fiction inspirée d'un drame personnel. Ilana Moriosef.
Quelquefois, il suffit d'écouter celle qui, justement, parle tout bas. On a donc demandé à Elsa Fottorino de lire les premières lignes de son livre.
Je vais vous parler de l'horreur. L'horreur banale, anonyme, qui nous cueille sur le sentier de l'ordinaire et nous rend à lui sans laisser de traces. Je fais partie de celles qui ont eu de la chance, celles qui ont été remises à leur place initiale sans que personne ne constate l'effraction.
Parle tout bas raconte la mémoire qui flanche, les questions automatiques des enquêteurs, le besoin et le refus de dire. Elsa Fottorino.
Vous avez besoin de l'exprimer à vos proches, mais il y a une autocensure. Pourquoi ? Parce que c'est un crime honteux et que quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous le verbalisez, on vous assignera nécessairement à ce statut de victime de façon définitive. J'ai lutté énormément pour justement en sortir, parce que c'est indispensable de sortir de ça. Et c'est très difficile à faire, parce qu'il y a cette question de la loyauté vis-à-vis de soi-même. On ne s'autorise pas à aller bien parce qu'on a l'impression que ça va minimiser ce qui nous est arrivé.
Le procès, des années plus tard, elle le traverse en restant à distance.
Je ne voulais pas écrire un livre sur le viol, je voulais écrire un livre sur la vie. C'est ça qui était important pour moi. C'était la vie, c'était la musique, c'était les rêves, c'était le regard sur le monde. C'est ça, en fait, qui a nourri ce livre. C'est plus le portrait d'une jeune fille que l'histoire d'un viol, je crois.
Parle tout bas et le récit à la fois mezzo voce et plein de colère qui dit « Voilà celle que j'étais, voilà celle que je suis, envers et contre tout ».
Par le tout bas d'Elsa Fottorino, publié au Mercure de France, c'est le choix du service culture de France Inter.
C'était le journal de Sébastien Legénie. Merci Sébastien. Dans un instant, le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Temps souvent ensoleillé demain.
Oui, sur toutes les régions au sud de la Loire. Alors il faudra attendre la dissipation de la grisaille matinale, hein, particulièrement dense sur le sud-ouest, mais c'est bien le soleil qui s'imposera. Plus au nord, ce sera quand même encombré le matin, puisqu'on aura la trace de notre perturbation, avec pas mal de nuages, mais des éclaircies qui reviendront sur le Nord-Pas-de-Calais et les Ardennes en matinée, et elles progresseront vers la Bretagne, la région parisienne et l'Alsace pour l'après-midi.
Et du côté des températures, peu de changements.
Oui, ce sera peut-être un petit peu moins froid quand même le matin, 3 à 8 degrés le plus souvent, seulement 1 à 5 en allant vers les frontières de l'Est. Et puis l'après-midi, vous aurez 15 degrés à Lille, à Strasbourg, 17 à Honfleur et Paris, 18 degrés à Rennes, à Clermont-Ferrand ou à Grenoble, 20 pour Agen et 23 pour Perpignan ou Ajaccio. Et puis dimanche, beaucoup de soleil, mais attention, on a un voile nuageux assez dense qui gagnera les régions voisines de la Manche et de l'Océan.
Merci beaucoup Elodie Calac de Météo France.